liberté, égalité, révolution et république. Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique. On nous convoite et nos voix vont au con, on les consacre que leur sacré con.
Bonjour.
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 Parce que la parole n'est donnée qu'à ceux qui la prennent, ici les citoyennes et citoyens sont saisis pour faire entendre leurs idées, leurs projets, leurs revendications pour une société plus juste, plus solidaire. Vous voulez réagir? Voici notre mail. Parole des citoyens, tout au singulier, @fréquence7.net. Aujourd'hui, le titre de notre émission, les acronymes PLUI et RSA. Marie-Claude va nous expliquer le PLUI, Plan Local d'Urbanisme Intercommunal du Bassin d'Aubenas, et nous parler de la première réunion à Vaisseau, complétée par deux témoignages. Claude nous parlera du RSA. Pour les luttes passées, nous reviendrons sur la manifestation du 29 septembre dernier avec trois témoignages. Pour finir, et en douceur, Edwige, citoyenne de la planète Terre qui rêve d'un monde meilleur, rejoint notre équipe pour ouvrir la parenthèse poétique. Pour commencer, nous laissons la parole à Marie.
Bien, alors il y a eu, oui, une réunion à Vaisseau, donc le PLUI. Le 7 mars 2019, la communauté de communes du bassin d'Aubenas a prescrit l'élaboration de son plan local d'urbanisme intercommunal. Ce plan sera réalisé sur les 28 communes constituant son territoire et viendra remplacer les documents d'urbanisme existants. Une concertation aura lieu avec les habitants pendant la période d'élaboration. Des registres sont mis à la disposition du public dans les mairies de la communauté ainsi qu'au pôle aménagement et développement de la communauté à Saint-Cernin. Vous pouvez y déposer vos observations ou adresser un courrier au maire ou au président de la communauté des communes du bassin d'Aubenas ou sur l'adresse électronique. Pourquoi est-ce important que les citoyens habitant la zone du bassin albenacien se saisissent du PLUI? Face des remarques et des suggestions. Qui mieux que les habitants peuvent s'exprimer sur leur territoire? Qui mieux qu'eux connaissent ce dont ils ont besoin? Évidemment, ce sont ceux qui vivent sur le territoire qui sont à même de commenter, proposer et formuler des observations pendant l'expertise d'usage. Alors, les exemples de thématiques. Comment limiter la consommation d'espace tout en accueillant de nouveaux logements? Comment renforcer les centres de quartier, de faubourg ou de village? Comment mieux valoriser l'environnement, les paysages et la biodiversité? Alors moi-même, je me pose quelques questions. Et je trouve qu'il faudrait tout particulièrement réfléchir à certains thèmes, tels que la mobilité et l'aménagement des routes. Lorsque les villages deviennent plus importants, plus denses en population, nos routes d'Ardèche si étroites ont parfois besoin d'aménagement. Je pense aussi notamment au parking de covoiturage. Je pense également à la construction ou à la réhabilitation des logements sociaux. Mais aussi, je me pose la question de la priorisation du tout numérique. Au lieu de mettre à disposition du public des permanences de services avec une présence de personnes compétentes qui seraient à même de renseigner et aider sur les problématiques des habitants. On peut aussi se poser des questions sur le cadre de vie. Pourquoi pas évoquer également l'eau, les risques incendies, la protection des forêts et des animaux? L'élaboration est entrée dans la deuxième phase d'étude, à savoir la définition des orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. Ce projet présente les orientations en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'habitat, de consommation de l'espace, de développement économique d'équipement, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, de préservation de l'environnement et des paysages. Alors, le calendrier prévisionnel 2021, c'était le diagnostic. 2022, le PADD, projet d'aménagement et développement durable. 2023, mise en forme réglementaire. Et en 2024, consultation des personnes publiques associées et enquête publique et approbation du PLUI. Alors, je vous donne maintenant les prochaines réunions publiques. Si vous voulez participer, ça sera super, parce qu'il faut y être en fait. Je pense qu'il faut que le citoyen y soit. Donc, les réunions. Mardi 11 octobre 2022, La Chapelle sous Aubenas, 20h à la salle polyvalente. Jeudi 24 octobre, Aubenas, 20h, espace Liénard. Lundi 7 novembre, La Ville-Dieu, salle des associations. Lundi 14 novembre, Vallée Entraigues Asperjoc, à 20h, à la salle Christine Sèvres Entraigues. Lundi 28 novembre, Lantillère, 18h30, à la salle polyvalente. Mardi 6 décembre, Mézillac, 18h30, salle des associations.
Merci Marie. Donc, nous avons recueilli les réflexions des deux citoyens sur deux points soulevés par les assistants donc à la réunion du 3 octobre à Vaisseau. La question était, les terrains constructibles deviendront non constructibles après les nouveaux documents d'urbanisme? Et ensuite, la question de la problématique d'eau. Donc, nous allons entendre le premier témoignage.
Il y a deux éléments majeurs. Il y a à la fois une vision collective qui, je dirais, essaie d'être véhiculée par nos représentants, les maires locaux. Et après, il y a une préoccupation individuelle, à savoir si mon terrain sera constructible après la mise en place de cette planification d'urbanisme qu'on appelle le PLUI. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les gens essaient de trouver des moyens pour garder la constructibilité. Il nous a été suggéré que pendant les 6 mois qui arrivaient, les autorisations d'urbanisme concernant les permis de construire seraient maintenues. Au-delà de ce délai, on peut perdre le droit à construire sur sa parcelle, constructible actuellement. C'est le cas.
Et en quoi c'est important d'assister à ces genres de réunions d'information?
Alors, c'est pour faire remonter... Moi, je me suis exprimé en expliquant qu'en Ardèche, et notamment sur l'emprise foncière de la communauté de communes du bassin d'Aubenas, 80% de ce territoire est déjà classé soit en zone N, soit en zone agricole. Et donc, je ne vois pas l'intérêt de mettre une pression, qui est une pression nationale, pour que sur ce territoire, des gens sur leur parcelle puissent librement construire. Voilà.
Il y a quelqu'un qui a posé la question comme quoi les citoyens n'ont pas été consultés ou assez informés sur ces pluies. Est-ce que c'est aussi votre sentiment?
Alors non, là je dirais que la communauté de communes du bassin d'Aubenas, bien sûr, met beaucoup d'informations à disposition des citoyens. Par contre, c'est vrai qu'il y a une exclusion numérique qui se fait. D'accord, les plus anciens, nos anciens, je dirais au-delà de 65-70 ans, n'ont pas les moyens, je dirais d'une part, d'accéder à ces informations qui sont essentiellement téléchargeables sur Internet. Et après, c'est vrai qu'on est noyé dans des acronymes, on est noyé dans des dossiers qui font 300-400 pages. Et en ce sens, on peut dire que effectivement, on se fait un peu enfumer, gentiment.
Donc le deuxième témoignage donc, concerne la problématique d'eau. Est-ce que cette problématique a été prise suffisamment en compte dans ces projets d'urbanisme? Nous allons entendre donc ces deuxièmes témoignages.
Un peu les deux. Je pense que ça manque d'informations, en tout cas dans l'analyse qui a été menée, qu'il devrait au moins y avoir une étude du territoire pour savoir quels sont les villages qui sont en difficulté par rapport à l'eau. Et donc ça représente un problème pour nous aujourd'hui en l'état actuel, mais que si c'est anticipé dès maintenant et que donc c'est intégré dans le PLUI, parce que je pense que si c'est intégré dedans, ça veut dire que ça sera pris au sérieux. Un peu les deux en fait, un problème et ça doit être intégré pour répondre à...
En quoi pensez-vous que c'est important d'assister à ces jours de réunion d'information?
Je pense que c'est important, surtout pour moi, je vais vous le dire, j'ai 25 ans et il n'y a pas beaucoup de jeunes ici ce soir et je pense que c'est quand même l'avenir et que ça nous concerne. Et de venir participer, c'est aussi venir donner des avis au milieu de personnes qui sont notamment plus âgées ce soir et leur dire qu'on est là nous aussi.
Donc nous revenons sous la problématique d'eau. Hein. C'est Dominique qui n'est pas là aujourd'hui, mais nous a fait parvenir des questions qu'elle se pose, hein, genre après la sécheresse de cet été, qui a l'air de se reproduire d'année en année, les canicules successives, les crises énergétiques, etc. Il est temps que les citoyens et les élus se posent la question, comment faire pour s'adapter à ces évolutions? Donc, oui, je voulais juste rajouter qu'à cette réunion, il y a une centaine de personnes qui ont assisté. Et la plupart des questions sont revenues pas spécialement sur la problématique d'eau, mais sur la constructibilité des terrains ou pas. Après, donc, les nouveaux documents qui vont remplacer ceux qui rigent actuellement.
Voilà. Donc, c'est vrai qu'on se demande ce qui se cache un peu derrière ce projet. Les gens ont intérêt à être au courant et d'ouvrir les yeux et les oreilles parce que ce n'est pas anodin.
Oui, c'est important que, ouais. qu'on fasse preuve de... Voilà, que les citoyens se déplacent et qu'ils aillent dans les réunions. C'est très important. Très important.
Très bien. Donc, nous laissons la parole à Claude concernant le RSA.
Oui. Alors, pour le RSA, revenu de solidarité active, 2 millions de foyers touchent le RSA. Cela concerne à peu près 4 millions de personnes, puisque les familles sont impactées, enfants et compagnes et compagnons. Ce n'est pas facile de constituer un dossier auprès de la CAF. 30 à 50% des personnes éligibles ne le demandent pas, un peu comme pour le chômage. Droits et devoirs. Là, ça m'avait beaucoup choqué. La liste des injonctions est longue. En cas de manquement, les sanctions sont lourdes pour les bénéficiaires. C'est le président du conseil départemental qui décide d'appliquer la sanction. Elle touche parfois tout le foyer. L'État pourrait cibler tous les gens qui ont droit à cette disposition. Trop facile, débrouillez-vous, grâce à cela, on fait des économies. Une idée lumineuse a germé dans les crânes d'œufs des ministères. Faire travailler 10 à 15 heures par semaine chaque bénéficiaire. Alors qu'on sait que le facteur numéro 1 de l'explosion du RSA, c'est le manque d'emploi. Quelle tâche va-t-on leur confier? Et où? Dans le public? Dans le privé? 2 millions d'esclaves à disposition, c'est tout bénéfice, un petit cadeau de la Macronie aux potes capitalistes. Le salaire, 7,48 € de l'heure, sans cotisation, maladie et retraite. C'est une escroquerie, une arnaque, savamment créée pour permettre au patron de remplacer le salarié au SMIC par d'autres au RSA. En Ardèche, la courroie de transmission ou passe-plat de la Macronie, M. Amran, veut le 17 octobre 2022, à Privas, signer pour l'Ardèche la loi sur le travail. Forcé. Des citoyens au RSA. Hasard du calendrier ou volonté cynique, le 17 octobre est la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Un petit calcul rapide. 4000 RSA en Ardèche, multiplié par 10 heures hebdomadaires. Ça fait 40 000 heures par semaine. En divisant par 35 heures, cela fait 1142 temps plein. De qui se moque M. Amran ?
Oui, moi je voulais rajouter juste, j'ai eu dans mon entourage un jeune qui était en difficulté. Je me suis plongée un peu sur le RSA. Et donc les jeunes, il y a eu une loi en 2022 là, les jeunes de 18 à 25 ans ont droit au RSA. Par contre, il faut qu'ils aient exercé une activité professionnelle pendant au moins 2 ans, équivalent temps plein, au moins 3214 heures durant les 3 ans précédant la demande. Comment les jeunes de 18 ans peuvent avoir travaillé 2 ans avant de demander le RSA, quoi. Ouais. Ça m'interpelle quand même.
Ouais. C'est vraiment une arnaque.
Ouais. Ouais. Des incohérences partout. Ouais. Et donc, Claude revient vers toi pour que tu nous fasses un retour sur la manifestation du 29 septembre.
Oui, le 29 septembre, les manifestations en France, mais je vais parler de celles d'Aubenas et de Privas. Donc, nous nous sommes retrouvés à l'Agora. Nous étions 400 réunis pour les salaires, la justice sociale et contre l'inaction écologique. Et à Privas, le matin, il y avait 300 personnes. Je crois que tu as fait des...
Oui, nous sommes allés recueillir les témoignages des 3 manifestants.
Tout ça, pour pas qu'une seule chose. Alors pour commencer, moi je manifeste pour les AESH, les accompagnants d'enfants en situation de handicap. Nous travaillons pour un salaire en dessous du SMIG. Notre statut est déplorable. Et pourtant, notre métier est magnifique. Au quotidien, dans les classes, nous accompagnons des enfants pour l'école inclusive et leur permettre d'apprendre, quelque chose de très important. Et pour cela, j'ai envie de dire que la précarité, c'est pas un métier, mais c'est la réalité des AESH aujourd'hui. Je défends aussi le mouvement pour l'écologie, les femmes, la justice sociale en général. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est très très compliqué pour la majorité des citoyens et qu'il faut faire quelque chose vite et fort pour être entendu et que ça bouge. On ne peut pas continuer comme ça. J'ai peur pour mes enfants. J'ai envie d'un monde meilleur.
Moi, c'est un tout. C'est un tout. Rien ne va dans le bon sens. Voilà, la précarité, moi, je la subis de plein fouet. Alternant des périodes de chômage avec le travail que je trouve, qui n'est pas forcément adapté, voilà, avec un travail saisonnier où on est sous-payé, exploité, où on travaille dans des conditions épouvantables. Voilà. Donc, et puis surtout, cette réforme du chômage dont les gens parlent peu parce que ce n'est pas très populaire, mais qui va beaucoup impacter, particulièrement sur nos territoires. Je ne suis pas sûre que les gens aient pris toute la mesure de ce que ça va avoir comme conséquence au niveau de l'augmentation de la précarité et de la misère.
Tous les mots d'ordre me conviennent, oui. Il y a de quoi faire, hein, puisque effectivement il faudrait taxer les riches, il faudrait taxer les super profits, et aujourd'hui on tourne le dos à tout ça et on s'oriente vers toujours plus de précarité dans toute la population, 90% de la population. Et ça, c'est effrayant. Et puis bien sûr, tous les problèmes écologiques, les problèmes de la guerre que l'on organise, que l'on pérennise comme moyen de régler les problèmes, et ça n'en est sûrement pas un. Voilà, c'est déjà une déclaration.
Oui, donc ça a été la précarité. Hein, nous sommes allés à la manif, donc ce qu'ils nous ont dit, c'était pas uniquement la précarité, c'était le chômage. Et aussi l'écologie, le problème d'écologie et de la guerre aussi.
Bon, on revient sur les actions à venir.
Oui,
parce que j'aimerais qu'Edwige ait le temps de nous lire son pamphlet.
Voilà, donc c'est pour le 17.
Alors, le 7 octobre, à l'appel de la CNT, un rassemblement est organisé à Aubenas, au Champ de Mars, à 18h30, solidarité avec le combat pour les libertés en Iran. Le 16 octobre, la marche contre la vie chère et l'inaction climatique, dimanche à Paris, place de la Nation. Le 17 octobre, rendez-vous à l'hôtel du département de Privas, le matin, à partir de 9h30, levons-nous contre le projet indigne de faire travailler les bénéficiaires du RSA. Voilà.
Merci Claude. Pour terminer l'émission, nous laissons donc la parole à Edwige pour la parenthèse poétique.
Alors d'abord, bonjour à tous les auditeurs. Alors, en guise de poème, je trouve que l'ambiance sociale appelle plutôt à un pamphlet que je vais me faire une joie de déclamer ici. Le titre, c'est « Le travail de Macron ». Pendant que Macron travaille les esprits pour influencer, diriger, manipuler l'opinion, pendant que Macron travaille comme un fou pour placer et faire travailler son argent, pendant que Macron travaille au corps les pré-retraités, les chômeurs, les précaires, pour les humilier, les harceler, les forcer, les réduire au travail d'intérêt général, tels des délinquants rappelés à l'ordre, les astreindre aux travaux forcés, tels des condamnés au bagne. Peut-on rappeler à Macron ce qu'est le travail ? Faire des efforts en vue d'obtenir un résultat, comme nous le dit le Larousse. Le travail n'est pas le monopole du néolibéralisme, du capitalisme, des sociétés autoritaires ou collectivistes, de tous ceux qui ne voient que la productivité, la rentabilité, l'efficacité du travail, et qui maintiennent précieusement, méticuleusement, la tension au travail, l'épuisement au travail, l'asservissement au travail, la soumission au travail, et avant tout, la division du travail, pour mieux nous diviser. Il est temps de nous rassembler afin de travailler, oui, mais de travailler pour le bien-être des travailleurs. Et surtout, pour le bien-être
de notre terre qui souffre d'une terrible maladie, celle du grand capital.
Bravo.
Merci. Bravo, Edwige. Donc, merci. S'il n'y a pas d'autres informations...
Parce qu'on a quelques secondes. Oui. Samedi, je suis allée... par solidarité, saluer les vendeuses du magasin Camailleux. Nationalement, ça fait 2500 personnes qui vont se retrouver à la rue. Tout ça à cause d'un requin qui avait acheté cette entreprise et qui l'a dépecé. Enfin bon, comme d'habitude, quoi. Mais voilà, on finit par s'habituer à cette horreur. Et c'est très dur. Et quand je suis allée, elles avaient pleuré. En fait, elles venaient de perdre leur travail. Et c'est douloureux, franchement. Je ne suis pas ravie de vivre dans cette société-là, pardon, excusez-moi. Voilà.
Oui, c'est vrai.
Dans 15 jours.
Voilà, donc conclusion, la prochaine émission dans 15 jours, nous vous rappelons le mail pour vos réactions, infos, suggestions, parole des citoyens au singulier, @fréquence7.net. Merci les filles.
Merci.
Merci.
Au revoir à tous.
Au revoir.
Liberté, égalité, révolution et république. Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique. On nous convoite et nos voix vont au con, on les consacre que leur sacré compte.